quel est vraiment le problème.
Il se passe
des choix. Problème économique, mais aussi un problème moral.
You
want
to have the problem. Provide me the reason.
Alors Lino, c'est quelqu'un qui a toujours des nouvelles très réjouissantes à nous apporter, n'est-ce pas?
Optimisme.
Voilà, optimisme de fou. Le mathématicien John Nash, prix Nobel d'économie, incarné au cinéma par Russell Crowe dans A Beautiful Mind, est mort ce week-end dans un accident de voiture. La faute a pas de chance. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi un mathématicien schizophrène a eu un rôle déterminant dans la science économique, Lino?
Oui, alors la théorie des jeux, en fait, dont Nash est l'un des fondateurs dans les années 50, est en fait une branche très rigolote de l'économie.
C'est vrai, ça existe, une branche rigolote de l'économie.
C'est vraiment drôle, on fait des jeux comme Chicken Game, à tel point qu'un des principaux manuels de théorie des jeux s'appelle d'ailleurs Fun With Games.
Il y a besoin de le préciser d'ailleurs, tellement que c'est drôle.
Mais non, mais c'est
vous
bien,
allez voir, ça va être très drôle.
Et comme dans un jeu de société, la vie de tous les jours recèle de situations où votre condition ne dépend pas seulement de vos actions, mais aussi de celles des gens qui vous entourent.
Malheureusement, on voilà. Peut pas se passer des autres. On peut pas faire abstraction.
Okay. Et après, on dit que les économies sont individualistes. Lorsqu'il fait ses choix, l'individu essaye d'anticiper le comportement des autres afin d'avoir la meilleure condition possible, sachant le choix des autres. Par exemple, vous ne choisissez pas votre heure de déjeuner indépendamment de la file d'attente anticipée au Crous. Vous allez essayer en fait de minimiser ce temps d'attente.
Ah bah oui, normal. Mais le problème, c'est que si tout le monde fait ça, est-ce qu'on va pas créer un nouveau bouchon?
Et
malheureusement.
Oui. Et c'est l'apport de Nash d'avoir montré que dans de nombreuses situations, optimum individuel et collectif ne coïncident pas. Par exemple, pour le Crous, reprenant. Si tout le monde fait le même calcul que vous, vous risquez fort de vous retrouver tous en même temps à la cantine.
C'est très con. Hein.
Dommage.
Voilà, c'est un raté.
Se retrouver sans tarte au chocolat, par exemple, aussi, puisque tout le monde l'aura pris en même temps.
Voilà, avec du céleri en entrée, ça c'est dégueulasse.
La solution était individuellement rationnelle, mais socialement inefficace, parce que la tarte aux pommes, c'est pas bon. Hein. Puisqu'il y a même. Et en plus, vous avez une queue à la caisse.
Oula.
De
en
manière
plus.
Formelle, on appelle. Pardon, j'ai coupé vos blagues salaces.
Les blagues salaces, tant mieux. J'approuve quand tu coupes les blagues salaces de Thomas. Continue, Lino.
Voilà. Je vais peut-être réussir à faire ma chronique. De manière formelle, on appelle un tel équilibre individuellement optimal un équilibre de Nash. En fait, je maximise mon gain en fonction des choix anticipés de mon congénère et comme les autres font de même, l'équilibre s'auto-réalise. C'est moins drôle. Hein. Rien ne garantit que cet équilibre soit socialement optimal et la plupart des cas, il ne l'est pas. L'exemple le plus cité d'un jeu où l'équilibre collectif est sous-optimal est en fait le dilemme du prisonnier.
Tes souhaits.
Merci. Où deux joueurs auraient tout intérêt à collaborer mais où, en l'absence de communication ou d'entente, vont trahir l'autre joueur.
Oh, c'est très triste. Et à quoi est-ce que cela s'applique?
Aussi simple qu'il paraît, ce jeu sert de base à la politique antitrust européenne et américaine.
Ah, on croirait pas comme ça. Voilà. Allons-y.
Deux entreprises en concurrence sont en fait comme les deux prisonniers. Si elles s'entendent, elles peuvent améliorer leurs profits au détriment de la société. Alors que si elles ne communiquent pas, elles vont mener une guerre des prix et cela est au bénéfice des consommateurs. L'idée du régulateur est de fortement punir l'entente, mais aussi d'inciter les entreprises à dénoncer les petits camarades. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs il y a 2-3 mois avec le cartel du yaourt où un des acteurs...
Ça fait peur, ça. Le cartel du yaourt.
Oui, mais où je ne sais plus lequel des entreprises a dénoncé une demi-douzaine d'autres entreprises qui avaient organisé un cartel très bien organisé.
D'accord, alors sans faire attention aux interruptions de Thomas, donne-nous d'autres exemples s'il te plaît.
Voilà.
Prenons le cartel du yaourt.
Voilà, prenons un jeu qui est célèbre, c'est Ulysse et les sirènes. Face à la tentation, Ulysse se lie les mains au mât, c'est-à-dire en fait s'oblige à ne pas choisir une situation qui lui apparaît à l'instant T préférable. Je vois Thomas qui sourit, mais s'avérera néfaste à la période T plus 1. En fait, c'est un problème d'incohérence temporelle qui s'applique à de nombreuses situations, dont la cigarette, la dette publique et l'inflation. Ce qui, pour un monétariste, sont trois choses qu'il faudrait supprimer, surtout les deux dernières.
D'accord. Et alors, que dirait le théoricien des jeux sur ce qui se passe en ce moment?
La négociation entre la Grèce et la Troïka, pour revenir à l'actualité, est un régal pour un théoricien des jeux.
On s'amuse comme on peut.
Oh là là. La détermination
de l'homme, Lino, je sais bien. Pour te taquiner.
Courage, courage.
Je vais réussir.
C'est bientôt fini.
La détermination de l'ampleur du non-remboursement que la Grèce va faire, et qui est une issue inévitable depuis des mois et que l'on aurait dû même accepter il y a des années, est un problème typique de théorie des jeux. Comme toujours dans ce genre de négociation, la moindre information a une valeur déterminante dans l'issue du jeu. Prenez la Grèce. Elle souhaite minimiser le remboursement de sa dette, tout en maintenant sa réputation pour éviter des taux d'intérêt futurs trop importants et que les seuls prêteurs qui acceptent encore de lui prêter, la Troïka, continuent à financer sa dette. Donc la Grèce connaît sa capacité à payer, ce qui est une information importante, mais pas le FMI. Le FMI, lui, espère obtenir le remboursement maximal. Pour cela, il est prêt à une concession, qui est l'effacement de la dette, si cela améliore la solvabilité de la Grèce et lui permet d'investir dans son économie pour rembourser plus tard. Mais si c'est pour faire n'importe quoi avec cet argent, le FMI n'acceptera pas l'effacement. Et en fait, dans ce genre de négociation, il existe plusieurs équipes de Nash, dont au moins un, celui vers lequel on se dirige, est en fait sous-optimal, et même pas du tout optimal. Pour conclure, sur le plan de la recherche économique, comme de l'application pratique, la théorie des jeux est un des champs les plus féconds de l'économie. Ce champ a par exemple permis de redéfinir de manière rigoureuse le concept d'équilibre et de mieux en prendre en compte le comportement individuel. Cela, on le doit au travail de pionniers comme Von Neumann ou Nash, qui est donc mort ce week-end. Et puis, je vais terminer, c'est pas coutume, par un conseil ciné. Je vous conseille de regarder le film avec Russell Crowe pour savoir qui était ce drôle d'énergumène de Nash.
Non, mais en fait, entre les recommandations ciné de Céline et les tiennes, c'est à vous deux que j'aurais dû confier le journal de la culture, en fait. Non, merci Lino pour l'édito économique.